se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. On va parler ce soir d'un livre d'un ami italien, Carlo Milani, qui a publié dans une excellente maison d'édition italienne, Eleutera, un livre appelé Technologie conviviali. Technologie conviviale. Carlo Milani, c'est quelqu'un qui donc a déjà fait des livres tout à fait intéressants, mais d'abord, à l'intérieur d'un groupe, comment s'appelait ce groupe ?
Ippolita, d'ailleurs il s'appelle, puisqu'il existe toujours, mais on a déménagé avec plein de copains et copines dans un autre groupe qui s'appelle Circe, et maintenant on fait plutôt de la pédagogie à cœur.
L'enchanteresse ou la sorcière de Monsieur Homer, mais très exactement, Circe, est-ce que tu peux nous dire ce que cache cet acronyme ?
C'est pour Centre International des Recherches pour les Convivialités Électriques, ce qui est un peu exagéré peut-être, et l'ambition c'est justement d'avoir quelque chose en commun avec les machines, c'est-à-dire l'électricité. Effectivement, un être humain est sensible à l'électricité, évidemment, les machines aussi, et les machines numériques d'autant plus, et nous, en tant que hackers, on est intéressés aux machines qu'on aime bien, mais pas toutes, seulement celles qui nous conviennent.
Je note ton usage du mot hacker, et bien entendu, c'est un mot que vous avez également reconnu, c'est bien H-A-C-K-E-R, donc un hacker, quelle définition en donnerais-tu ?
Pendant nos formations, il arrive souvent que les gens nous disent « Ah mais bon, mais donc vous faites des trucs illégaux. » Bah, on n'est pas des souteneurs de la légalité à tout prix. Et pourtant, si vous voulez faire des hackerisations, je ne sais pas comment on dit en français.
On va dire des bidouillages.
Des bidouillages illégaux, c'est pas difficile. Vous allez sur Google et vous tapez « espionner mon pote sur Facebook » et voilà, ça c'est illégal et vous pouvez le faire. Nous, on s'occupe pas de la sécurité informatique, on s'occupe plutôt de la confidentialité. Normalement, dans la vie même déconnectée, disons, la sécurité et la confidentialité sont à l'opposé. Je peux te donner l'idée, par exemple, si on dit « qu'est-ce que c'est une route sécurisée dans une ville ?» Eh bien, la réponse est institutionnelle, c'est « il faut des caméras ». Les caméras rendent évidemment la rue sécurisée, entre guillemets, bien sûr, et complètement pas confidentiel, puisque tout le monde a son visage sur la caméra. Donc ça, c'est évidemment la situation dans laquelle on se trouve très souvent, c'est-à-dire la sécurité est opposée à la confidentialité. Nous, on est confidentialité, en anglais, c'est privacy. Donc c'est...
L'intimité, la vie privée, le respect de la vie privée.
Voilà, donc notre façon d'approcher le hacking, c'est augmenter la possibilité pour les gens d'avoir de la vie privée pour eux, pour ses copains, ses camarades.
Alors, je voudrais juste rajouter ceci. Carlo Milani vient de parler des caméras de surveillance et vous savez sans doute comme moi que pour les Jeux Olympiques de Paris, la mairie de Paris a un merveilleux projet pour, bien entendu, augmenter la sécurité des athlètes et des participants, des spectateurs et des Parisiens, qui va consister, je vous le donne en mille, à augmenter le nombre de caméras présentes dans Paris. Car bien entendu, il n'y en a pas assez, il en faut beaucoup plus. Carlo, tu viens d'utiliser un mot qui m'a semblé extrêmement intéressant, parce que d'un côté, tu dis que tu es un hacker, et évidemment, on a plutôt tendance à souvent penser que les hackers sont des gens très méchants, qui travaillent uniquement pour aller voler de l'argent sur les comptes en banque des petites gens, et également pour voler les dites données personnelles des petites gens. Glissons sur le fait que les grandes entreprises informatiques sont celles qui volent les données à un degré infiniment plus colossal que le moindre hacker. Mais le mot sur lequel je voudrais revenir, c'est celui de pédagogie. Quel est le rapport entre Ippolita, entre Circe, toi et la pédagogie ?
Pas évident, puisque pédagogie, c'est quelque chose d'un peu, comment dire, violent, dans le sens que c'est Goguet, c'est du grec ancien, ça signifie d'une manière ou de l'autre faire de guide à quelqu'un, et donc il y a un rapport évidemment asymétrique de pouvoir. Mais bon, disons que à côté de ça, l'idée c'est surtout d'avoir une approche, une attitude à cœur. Donc c'est pas pour une naissance qu'on devient un cœur, c'est pas parce qu'on a de l'argent, c'est juste parce que on fréquente des gens qui sont curieuses de connaître des machines, des êtres techniques, comme on dit, et qui ont envie de développer des relations égalitaires, affinitaires, avec d'autres gens qui aiment avoir affaire et salir ses mains avec les technologies et construire un monde qui soit libre pour tous, pour toutes, sans avoir l'embarras à chaque fois de se demander: est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'espionner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire du mal ou d'utiliser mes données, mes métadonnées pour faire quelque chose d'autre que je ne veux pas? Voilà, donc l'idée de pédagogie, c'est surtout de auto-formation, parce que dans nos réseaux sociaux, en fait, il y a souvent des gens qu'on méconnaît peut-être, on ne donne pas l'importance qu'ils ont. Il y a des personnes qui sont capables de gérer les relations, par exemple, avec des vélos, avec des machines à laver, avec n'importe quelle machine pas numérique, ou aussi avec des machines numériques. Donc, les hackers, d'un autre sens, c'est pas que les hackers du numérique, c'est des gens qui ont envie de construire un monde, des relations différentes avec les technologies.
Visto e considerato che non avevano più speranza, incominciarono ad aggirarsi come si aggirò il famoso spettro per l'Europa. Tutti evidentemente erano dei disgraziati, ma ciascuno lo era in maniera differente, poiché la disgrazia colpisce i miseri, ma con incredibile fantasia nelle forme. Difatti c'era quello che aveva perso la casa, insieme a quello che più semplicemente aveva perso le chiavi di casa. E c'era quello che aveva perso la memoria e mo non si ricordava neanche più che cos'è che si era perso. C'era quello che aveva perso la ragione e insieme alla ragione aveva perso anche il torto. E infine c'era quello che aveva perso tempo e mo non c'aveva più tanto tempo da perdere. Che difatti fu lui che disse: attenzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione. 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 E mentre che si aggiravano, come lo spettro si aggirò per l'Europa, si trovarono a passare sotto le finestre di quelli che una volta dicevano avanti popolo. E dicevano avanti popolo perché mandavano sempre davanti il popolo e loro rimanevano indietro, magari d'un passo, magari d'un metro, perché loro ad andare avanti gli veniva da ridere. E furono questi ultimi che con gli occhi rossi e la morte nel cuore videro lo scompiglio nelle forze dell'ordine, che mo non erano più né tanto forti né tanto meno ordinate. Difatti erano scappati via i generali, tenenti, sottotenenti, nullatenenti, perfino i pompieri di Vigiù da qualche minuto non c'erano più. Con loro si erano dileguati i guerrieri, quelli che terrorizzavano il mondo e mostravano i denti. Per strada c'era rimasto solamente qualche brigadiere in pensione che sventolava la dentiera. Ma è risaputo che anche i soldati stentati capiscono bene come va la situazione e si dicono sottovoce: tra 5 minuti comincia la rivoluzione. 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 Il capo di Gabriele, la polizia di tutti quanti, l'eserciti riuniti, stava guardando in televisione un famoso programma sui gamberi in salsa rosa. Quando ci fu una spiacevole interruzione, il giornalista, autorizzato dalla redazione, disse che il quiz del sabato sera, il tirassegno sul negro che passa la frontiera, il telegiornale di Paverino, il grande fratello con suo cugino, i mondiali di Mazzafionda non sarebbero andati in onda. Disse: mi dispiace per l'interruzione, ma mo tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Così il capo dei capi di tutte le polizie riunite, per la prima volta durante la sua lunga carriera, si sentì di essere la persona sbagliata nel posto peggiore. Lui che per tutta la vita era sempre stato così tanto sicuro di sé, che le parole gli stavano in bocca come famosi quadri dentro un museo, adesso invece si vergognava che in una città così piena di sole sporcasse i muri con la sua ombra. Così quella folla che s'aggirava come s'aggira lo spettro per l'Europa si fermò un istante e incominciò il conto all'incontrario, come si fa la notte di Capodanno aspettando l'anno nuovo che incomincia, e disse: meno 5 4 3 2 1 con un po' d'emozione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. 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 Gentili signori, comincia la rivoluzione.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et absolument sans publicité. C'est bien Le Proton se rebiffe. Nous sommes toujours avec Carlo Milani, auteur du livre en italien Technologie et conviviale et les technologies conviviales, paru chez Eleutera, et on peut espérer que ce sera bientôt publié en français sous le titre de Les technologies conviviales.
J'espère, bien que, je sais pas, il y a un peu de Willich là-dedans, il faut voir si le traducteur est bien d'accord sur...
Avec le mot convivial. Nous en étions donc à parler des activités de pédagogie du groupe Circe, donc à nouveau comme Circe, comme la fée un petit peu dangereuse dans Homère, mais tu parles donc de pédagogie. Alors qu'est-ce que vous faites du point de vue concret en matière de pédagogie à l'égard des êtres numériques?
Donc ce sont deux questions, la pédagogie et les êtres numériques. Alors la pédagogie, c'est pas évident à expliquer parce qu'il y en a plusieurs activités. Je peux donner des exemples. Donc il y a des parents qui sont complètement désespérés puisque leurs enfants passent leur temps sur des tablettes, jouer des jeux vidéo. Ils sont très 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 désespérés, comme les enseignants et tout ça. Ils passent chez nous, ils nous appellent, nous disent « Écoutez, enseignez à ces enfants à bien utiliser les êtres numériques, les technologies. » Et nous, on répond « C'est pas possible, puisque... » Vous passez votre temps sur Facebook, les enfants vous prennent un exemple. Ça, c'est la première chose. La deuxième, pour creuser un peu, c'est d'expliquer que on peut pas utiliser bien des technologies qui sont à la base toxiques. Elles sont toxiques puisque c'est de la technologie industrielle, puisque c'est de la technologie militaire, par des normales technologies numériques des géants de l'Internet. Je parle pas d'autre chose. Parce que on fait du login password. Et login password, ça signifie alt, donnez votre généralité, mot de passe.
Il y a un passage merveilleux dans le livre de Carlo Milani là-dessus. Il parle d'entrer dans une zone militarisée. C'est comme ce qu'on doit faire quand on entre dans une zone militaire. Eh bien, avant d'entrer dans une zone militaire, il faut montrer son passeport, sa carte d'identité, ses empreintes digitales.
Mais c'est pas une métaphore, puisque quand on rentre dans au-delà des gates, des portails des patrons numériques, effectivement, on rentre dans une zone militarisée. C'est les data centers. Les data centers, c'est des hangars industriels où il y a des serveurs qui sont les ordinateurs de quelqu'un d'autre.
Souvenons-nous que quand on parle d'immenses hangars, on parle de hangars qui peuvent contenir 2000 serveurs, 3000 serveurs.
20 000, 30 000.
Mamma mia, 30 000 serveurs. Un serveur, c'est gros. Hein. Même maintenant, avec les microchips, un serveur, c'est une grosse bête. Ça fait un mètre de long, quasiment.
Ça peut être aussi petit, mais c'est pas... La question, c'est qu'il y a des militaires autour.
Des êtres humains
des
avec des flingues.
Des êtres humains avec des flingues. Imagine que toi, tu veux rentrer dans ton compte Facebook, dans ton compte Google.
Alors, je t'arrête. Moi, j'ai pas de compte Facebook. Hein.
Très bien.
Bon, j'ai un compte Google.
T'as un compte Google. Alors, il y a un data center de Google quelque part dans le monde, et tu veux y accéder, il faut qu'elle soit protégée, puisque si c'est pas protégé, les données peuvent être volées, disons, et il peut y avoir une interruption d'électricité, il peut y avoir un problème. Donc il faut déjà armer autour de tes données et des données de nous tous. Donc les problèmes, c'est aussi un niveau de brassage avec ces technologies militaires ou industrielles qui est important. Donc pour revenir à la question de la pédagogie, la première chose, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas pur, on n'est pas juste parce que on pense que le monde doit changer d'une manière ou de l'autre. Alors ça suffit pas. Il faut aussi que les moyens puissent être au même niveau
que les fins,
au moins. Et donc les moyens, si on utilise des moyens militaro-industriels, comme c'est le cas des GAFAM, vraiment c'est pas possible. De l'autre côté, ce qu'on fait, surtout avec les plus jeunes, puisque sont généralement plus intelligents des plus adultes, plus réceptifs. C'est-à-dire que les adultes, dans nos expériences, ont la tendance à dire « Oui, il y a un problème énorme, c'est la surveillance, qui est effectivement un problème. » Et de l'autre côté, ils disent normalement « Mais moi, je peux pas vraiment être manipulé, puisque j'ai une idée bien précise de comment le monde doit aller, etc. »
Si je veux résumer, c'est « Parce que je suis un anarchiste, on peut pas me manipuler. »
Pas que, oui, sans doute, mais cela est valable pour tout le monde. Donc, c'est pas que les anarchistes.
Bien sûr.
Ce qui est encore pire, si je peux dire. Parce que on s'explique pas l'investissement publicitaire dans le monde, alors. On s'explique pas comment c'est possible. Tout le monde est prône à la publicité, sauf moi, puisque moi, je suis plus intelligent, etc. Évidemment, il y a un problème là-dedans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez les plus jeunes, généralement, l'argumentaire surveillance n'a pas vraiment de prise, alors que l'argumentaire manipulation a bien des prises. Parce que les plus jeunes ont l'habitude d'être contrôlés. Il y a les parents, il y a les enseignants, il y a les mondes à l'extérieur qui disent « Ah, il y a les loups-garous autour de vous, faites attention, l'Internet est dangereux, et les mondes encore plus. » Et donc les contrôles sont là, toujours. Alors que la manipulation n'est pas si explicite. Et quand les jeunes se rendent compte, les enfants, je veux dire, les ados, mais aussi les jeunes se rendent compte qu'ils sont manipulés, c'est l'idée de nos formations, là, il y a quelque chose qui cloche.
Comment est-ce que tu montres à un jeune, à une fille de 12 ans, qu'elle est manipulée ? Concrètement, comment est-ce que tu lui montres qu'on la manipule ?
D'abord, il faut demander quel est ton usage des objets, des êtres numériques. Probablement, 12 ans, elle aura un compte TikTok, c'est créé, puisque il faut avoir 13 ans, mais peu importe. Et probablement, sa mère, son père, lui a fait un compte Facebook pour pouvoir la contrôler. Alors que le compte Facebook, la gamine des 12 ans, n'a aucune raison de l'utiliser, puisque c'est un truc pour un vieux. Mais disons qu'elle a des comptes qu'elle ne pourrait pas avoir normalement, puisque c'est plus ou moins illégal, avant 14 ans, 13, 14 ans. Mais disons qu'elle a des comptes sur Snapchat ou des comme ça. Donc on fait un peu une interview collective, pas que normalement c'est collective. Donc il y a d'autres gens du même âge. Et puis on regarde un peu qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on imagine ne pas avoir le smartphone pendant 3 heures. 3 heures sans smartphone.
3 heures sans smartphone.
Non, mais ça, c'est du sérieux ou c'est une blague ? Non, c'est du sérieux. Imagine-toi, ah, ça va être très difficile parce que j'ai des trucs importants, etc. Et cette angoisse, qu'est-ce qu'elle fait sur ton corps, cette angoisse ? Quelles sont les réactions physiques ? C'est du physique. Vous voyez, nous, quand on parle Internet, on parle technologie, il faut se rappeler toujours, c'est des trucs matériels. C'est absolument pas désincarné ou... Donc la question, c'est de porter l'attention, non pas sur les contenus de l'interaction, mais sur les effets physiques, psychologiques, mentaux, en termes d'émotions, que l'interaction peut avoir sur le corps, sur l'intelligence de la personne.
écoutez toujours Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'est toujours Le Proton se rebiffe, et nous sommes avec Carlo Milani, auteur de Technologie conviviali, Technologie conviviale, publié en italien chez Eleutera, et ça sera très probablement publié bientôt en français. Tu étais en train de répondre à la question que je t'avais posée. Tu es en face d'une fillette de 12 ans et tu veux lui enseigner une relation plus libre, moins dominée à l'égard des êtres numériques.
Enseigner, c'est un peu douteux parce que c'est difficile d'enseigner quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que moi, je n'utilise pas TikTok, donc c'est dur d'enseigner à utiliser TikTok. Et d'ailleurs, ce n'est pas le but. L'idée, c'est plutôt d'assumer un regard qu'on appelle un regard biaisé.
Un biais.
C'est-à-dire de se rappeler que c'est sûrement important ce qu'on fait avec les technologies numériques, donc les contenus, mais encore plus important, c'est les cadres dans lesquels les contenus sont posés, écrits, parlés.
Tu nous disais que tu demandais par exemple à cette fillette de 12 ans, ou aux autres enfants, ou aux autres adolescents avec qui tu parles dans le cadre de ce que vous faites avec Tchirtché, des émotions de ce qui se passe dans le corps quand on utilise par exemple TikTok ou Snapchat. Pourrais-tu continuer à parler de ça ?
Un truc vraiment simple qu'on fait, on fait de la lecture émotionnelle de l'interface. Je vous donne un exemple. On prend un projecteur, on établit par exemple parmi les auditeurs que WhatsApp, c'est l'application que tout le monde utilise et tous les jours, donc il met d'accord les adultes et les plus petits, et on dit « qu'est-ce que vous voyez ici ?» et on projette juste les logos de WhatsApp. Or, les logos de WhatsApp, il y a des gens qui disent « ah, je vois un téléphone ». Cela signifie qu'il était vieux. Parce que depuis combien de temps il n'y a plus de téléphone avec
le combiné,
Ça fait 20 ans, 30 ans, je ne sais pas même. Donc, un enfant ne peut pas voir un téléphone puisqu'il n'a jamais vu un téléphone comme ça. Mais l'enfant, par contre, il dit « ah, je vois un ballon, ballon de bande dessinée » puisque à gauche, en bas, il y a un triangle qui fait… Donc, c'est pour parler. Donc, les logos de WhatsApp parlent aux petits et aux grands. Parfait.
Mais il ne dit pas la même chose.
Mais est-ce qu'il est rouge, il est violet, le combiné ? Non, il est vert. Et pourquoi il est vert ? On peut dire qu'il n'est pas gentil avec les gens affectés par le daltonisme, mais sûrement, pour tous les autres, il dit une chose culturellement très répandue, « allez-y ! » C'est vert. Par contre, la notification, elle est rouge. Angoisse. Et la notification est rouge en haut, à droite. C'est pas en bas à gauche ou en bas à droite. Et pourquoi ? Parce que les gens, normalement, sont droitiers et vont en haut à droite. Si vous voulez savoir quelle est la chose importante d'une application, eh ben, si l'application est desktop, un ordinateur, normalement, la chose importante, la call into action.
L'interaction dans l'appel.
C'est en haut à droite. Login, c'est en haut à droite. Sauf s'il y a une application mobile, sur un mobile, ça va être au centre en bas. Sur le smartphone, puisque au centre en bas, il y a le pouce. Et le pouce ne peut pas arriver là-haut. Encore une fois, on parle technologie numérique, on parle de comment les corps humains ont des interactions toutes les journées, pas vraiment conscientes, avec des dispositifs, des devices, dispositifs numériques, qui sont issus d'une chaîne de production mondialisée, et donc qui, d'un côté, nous sert en tant que SERF, pour faire nos choses, pour entretenir nos relations, mais de l'autre côté, nous sommes manipulés par ces technologies. Nous sommes construits un dressage de nos comportements. Et ça, c'est tout à fait normal, puisqu'on veut y aller plus vite. On veut arriver où ? Et là, c'est l'intéressant de la lecture émotionnelle de l'interface. C'est par exemple, on peut voir avec n'importe qui a utilisé WhatsApp, une séquence bien cadencée d'état émotionnel qui se reprend. J'envoie un message, j'ai une notification gris. Les gris, c'est soulagement. J'ai envoyé le message. Mais quand il va arriver? Donc il y a soulagement, angoisse. Deuxième
notification
de gris, les messages est bien arrivé, soulagement. Mais quand il va être lu, angoisse. Les deux deviennent bleu, il a été lourd, soulagement. Mais quand il va me répondre, angoisse. De l'autre côté, ça va se passer exactement la même chose. Il faut bien noter que la notification est gris, bleu, elle n'est pas violet, jaune. Les couleurs ont été faites par des designers, des interaction designers, des psychologues. Et voilà, je veux dire, tout le monde peut bien voir que si d'un côté, c'est pas si exagéré tout le temps, de l'autre côté, c'est évidemment évident. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça pour tout le monde. Et peu importe l'âge, la langue, la richesse. C'est vraiment tout le monde.
L'émotion est un mécanisme de contrôle utilisé par les grandes structures industrielles et commerciales qui contrôlent une grande partie des êtres numériques disponibles sur Internet.
Absolument oui. L'émotion, c'est les cycles, les différentes itérations.
Différentes phases, ok.
Les phases. Je dis itération puisque c'est un algorithme. Donc c'est itération puisque l'humain devient algorithme lui-même. Il est algorithmisé parce que tu veux faire encore et encore la même chose en tant qu'usager. Et pourquoi? Eh ben, pour une bonne raison, puisque à chaque fois que qu'en tant qu'usager, on appuie sur la touche, il y a une décharge de dopamine dans notre cerveau qui nous donne du plaisir, une sensation de plaisir, et donc on en veut plus. C'est la bonne raison pour laquelle s'il y a un enfant ou un adulte, ou n'importe qui est sur son écran, smartphone, ordinateur, peu importe, vous pouvez faire l'expérience, très simplement, vous pouvez essayer de l'appeler. Probablement, s'il est vraiment pris dans son truc, il ne va pas répondre. Vous pouvez le toucher, et probablement, il ne va pas s'en apercevoir. Mais, si vous passez votre main devant l'écran, entre l'écran et ses yeux, et faire « Hé !» Et alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on est dedans un cycle, une itération qui cybernétique, qui fait encore et encore la même chose. Et pourquoi? Non pas parce qu'on est stupide, mais parce qu'on est humain. Et donc, on a un cerveau, et dans les cerveaux, il y a des décharges de dopamine qui est à peu près comme se faire des opioïdes. Et donc, ça donne du plaisir. Donc, dire à un enfant... Laisse tomber tes jeux vidéo et tu peux aller jouer au ballon dans la rue. D'abord, c'est considéré presque un délit puisque dans la rue, il y a des voitures. Et de l'autre côté, il n'y a personne dans la rue. Donc, c'est de la fatigue. C'est difficile. S'organiser, c'est difficile. Alors que appuyer sur la touche, c'est très facile et ça donne un plaisir chimique, endogène, immédiat, très addictif et ça marche. Donc c'est ça qu'il faut comprendre.
Speciale, cerco.
Proton se rebiffe avec Carlo Milani, auteur de Technologie et Conviviali, publié à Eleutera et peut-être bientôt publié en France et en français. Et nous parlions donc en particulier de la dopamine, de cette étrange hormone sécrétée par notre cerveau qui nous fait ressentir du plaisir et à laquelle nous sommes donc plutôt accros. Est-ce que, Carlo, tu pourrais nous donner d'autres exemples de manipulation par GAFAM, Google, Amazon, Facebook,
Apple, Microsoft.
Est-ce que tu pourrais donc nous donner d'autres exemples de manipulation de la dopamine humaine?
Donc, comme on voulait bien donner des exemples, on a cherché sur l'Internet, alors je me permets de vous conseiller de voir les vidéos de Arte Dopamine. Vous cherchez sur Arte, dans les sites des vidéos sur la dopamine pour chaque application. Il y a pour Facebook, pour Uber,
bravo,
pour WhatsApp, pour Tinder, puisque tous ces systèmes, pour YouTube, tous ces systèmes, d'une manière absolument explicite, ont été bâtis avec l'idée de maintenir les usagers humains, donc l'engrenage humain de la méga machine dans la zone de la machine. Donc l'objectif, le but de YouTube n'est pas celui de nous donner des contenus, c'est celui de nous faire rester sur YouTube. C'est ça la question. Évidemment, les deux choses vont ensemble, mais de plus en plus, elles ne vont pas vraiment ensemble, puisque de plus en plus, ce qui est important pour les gens, en tant qu'usagers, c'est le fait de passer du temps avec ces systèmes. Et cette histoire de passer du temps va avec la sécrétion de dopamine. En fait, ça serait vraiment impossible de faire la même chose pour organiser n'importe quelle chose qui coûte de l'effort. Un exemple assez simple que je peux porter, c'est pour moi, peut-être parce que j'écris des livres, mais ça peut valoir pour tout le monde, c'est vous êtes sur Amazon et vous trouvez un appareil que vous voulez, on ne sait pas pourquoi, on se trouve exactement là où on voulait, sans savoir comment on s'est trouvé là. Pour moi, c'est quelque chose, une expérience que ça m'arrive souvent, de dire mais
comment je suis arrivé là? Si on a la patience de revenir en arrière et donc de faire un peu d'auto-ethnographie, c'est ça la pédagogie à cœur, de se regarder en tant que sauvage. Nous, on est sauvage à nous-mêmes puisqu'on ne se connaît pas vraiment. Ça signifie de se regarder de l'extérieur et de se dire « Comment ça se fait que j'ai passé une heure sur YouTube pour voir quoi ?» Non, mais c'était des vidéos très intéressantes, oui, sans doute. Mais la question est « Comment ça fonctionne les cadres généraux ?» Les regards qu'on essaye de porter, c'est un regard en biais. Les regards en biais, c'est des côtés, un regard éloigné, un regard dans lequel on essaye de se mettre dans une situation et de se voir agir. Puisque j'ai par exemple un problème de toxicomanie avec les emails. J'ai un mail qui arrive dans mon boîte mail et j'ai envie tout de suite de répondre. Dès que je m'aperçois de cette vulnérabilité, c'est un vulnus, c'est une zone sensible de mon cerveau, je me rends compte que j'ai tendance à répondre tout de suite. Je réponds tout de suite et cela entraîne, enchaîne une autre réponse, etc. Et puis de la frustration.
Parce que la même chose se passe dans le corps et dans le cerveau de la personne qui te répond.
Ou pas, puisqu'elle m'envoie un message vocal sur Signal.
Et alors là, soulagement, anxiété. Soulagement, il me répond. Anxiété, non, il ne me répond pas.
On n'exagère pas, parce que ça, moi, perso, ça m'arrive. Donc, ce que je me dis, c'est qu'il faut se pédagogiser soi-même. Je connais ma vulnérabilité, donc je l'explique aux autres. Je demande, s'il vous plaît, ne pas m'envoyer des mails après 7 heures du soir. J'ai tendance à essayer de ne pas regarder mes mails. Je n'ai pas mes mails sur mon smartphone, qui est un vieux smartphone que j'ai récupéré un peu comme ça. J'essaie de ne pas l'utiliser, mais des fois, c'est plus fort que moi, je vais regarder mes mails. Ça, c'est quelque chose qui est valable pour moi. Chacune a ses vulnérabilités. L'idée, c'est passer de ses vulnérabilités, mais de comprendre comment on peut vivre avec d'une manière plus épanouissante, les cacher, mais en même temps, sans être écrasé.
Dans ton livre, j'ai trouvé une métaphore qui m'a paru absolument délicieuse, et tu parles du banquet. Quel est ton usage à toi de la métaphore du banquet dans ton livre « Les technologies conviviales ».
Ça revient au fait que « convivium », »,« convivialité », en grec, ça serait « symposium », c'est les banquets. Ce qui m'intéresse du banquet, c'est le fait qu'on ne peut pas faire un banquet tout seul. Donc, il faut des gens qui soient des camarades, quoi. Il faut quelqu'un qui soit content d'être ensemble. On ne peut pas faire un banquet avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Il faut de l'organisation. Puisque on n'est pas organisé, tout le monde amène à boire, mais il n'y a rien à manger. Personne n'amène rien, puisqu'on pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Où il n'y a pas de banc pour s'asseoir, où il n'y a pas de table. Donc il faut de l'organisation. Il faut aussi de la fantaisie.
De l'imagination.
De l'imagination. On peut mettre les choses comme au resto, mais alors pourquoi ne pas aller au resto? C'est mieux si on a un peu d'imagination, on fait... Chacun amène quelque chose, mais aussi il y a une idée, un thème, quoi. Donc l'idée du banquet, c'est quelque chose qui donne pour moi la chiffre de ce qu'on pourrait faire, on pourrait imaginer aussi avec les technologies. On a l'habitude à imaginer et à parler et à agir les technologies comme des cerfs, avec F, mais cela n'est qu'un accident de l'évolution. Un accident de l'évolution que j'appelle domination. C'est un accident. Ça fait quelques milliers d'années qu'on est là, ça empire. Mais vu que l'évolution est en cours, on pourrait évoluer d'une autre manière. On pourrait imaginer que la domination est juste une branche de l'évolution toxique qu'il faut abandonner et revenir à l'aide mutuelle et à d'autres manières d'évoluer avec les machines numériques et les machines et les technologies en général. D'où la métaphore du banquet et d'où aussi l'idée qu'on peut planter des serveurs comme des plantes, puisque planter un serveur communautaire, c'est un peu comme planter un arbre. C'est-à-dire qu'on a besoin des tomates, bien sûr, on fait des pâtes, on a besoin de tomates, on est en Italie. On a besoin de planter des plantes, de faire pousser. On a besoin aussi d'échanger des communications, des informations, etc. L'infrastructure, maintenant est presque complètement dans les mains des géants de l'informatique mondiale, dans les pays soi-disant démocratiques, dans les pays autoritaires et dans les mains de l'État. Ce qui est une variante que je pense être pire, même au-delà de l'imagination. Je ne suis pas pro-Facebook, mais je suis encore moins pro-Chine, État totalitaire. Donc la situation n'est pas enviable, mais on pourrait évoluer autrement. On pourrait dire, par exemple, on veut des clouds communautaires. On s'échange nos mails avec nos serveurs. En France, il y a, par exemple, des copains qui font un boulot très intéressant pour moi, qui sont les copains de Framasoft. C'est une association qui donne de l'infrastructure pour toutes sortes de gens qui ont envie d'avoir, de se dégoogliser, d'utiliser d'une autre manière les choses, etc. Évidemment, il y a d'autres moyens de faire. On peut monter son association, on peut planter son serveur communautaire. Tout cela pour dire que si on passe des heures et des heures sur l'Internet, il faut bien que l'Internet soit autogéré. On ne peut pas imaginer qu'il y a un État ou une grosse boîte qui nous donne gratos l'Internet. Ou bien, on peut l'imaginer, mais il faudra donner quelque chose en échange. Quelque chose en échange, ça signifie que si tout est gratuit, la marchandise, c'est nous. Pour être
très clair.
Très clair.
Dans ton livre, il y a une question que tu poses qui est absolument merveilleuse. Tu dis que souvent, tu demandes à des enfants, à des adolescents, à des jeunes, à des adultes, où se trouve, alors tel ou tel site, et pour les jeunes, puisqu'ils connaissent bien TikTok, tu viens d'entrer dans TikTok. Oui, mais où est TikTok? Et là, quelles sont les réponses? Comment est-ce qu'on arrive à trouver où est TikTok?
C'est plutôt compliqué à expliquer sans avoir un écran, mais disons qu'en gros, on fait un quiz. Donc, on donne trois possibilités. Possibilité 1, comme tout le monde le sait, Guglielmo Marconi, début du XXe siècle, envoya un message radio de l'autre côté de l'Atlantique, de la Cornouaille à la Terra Nova. Donc, radio. Les ondes radio qu'on a maintenant sont plus puissantes, c'est du 5G, 6G, je ne sais pas. Donc ça va plus vite, mais grosso modo, c'est toujours de la radio.
Donc la première possibilité que vous proposez, c'est l'Internet se déplace grâce aux ondes radio.
Deuxième possibilité, comme tout le monde le sait, depuis un siècle et demi, on pose des câbles sous-marins autour du globe, de la planète. Et donc on a posé des centaines de milliers de kilomètres de câbles, etc. Donc par des câbles sous-marins. Troisième possibilité, comme tout le monde le sait, ça fait 50 ans qu'on envoie des satellites dans la stratosphère, bien au-delà de la stratosphère.
Et je rappelle juste que M. Elon Musk, depuis quelques années, veut envoyer 42 000 satellites dans l'espace. Alors nous sommes en 2023, il ne se trouve pour l'instant que 15 000 satellites dans l'espace, et lui, il veut en envoyer 42 000 qui, bien entendu, lui appartiendraient tous.
Face à ces trois questions, la plupart des gens répondent satellite. Une partie des gens, mais pas beaucoup, répond radio. Très très peu répond câble sous-marin, qui est la réponse correcte. C'est-à-dire que Internet fonctionne grâce aux câbles sous-marins qui sont là depuis 150 ans. On connaît la technologie depuis 150 ans. Avant, c'était pour les télégraphes. Après, c'était pour les téléphones. Et maintenant, c'est de la fibre optique pour l'Internet à haute vitesse. C'est assez incroyable que la plupart des gens qui en parlent pensent sérieusement que des satellites puissent faire marcher l'Internet. L'Internet social, réseaux sociaux, je veux dire, c'est absolument impossible à faire marcher avec des satellites puisqu'on a besoin d'une puissance d'émission, non pas seulement des réceptions. On peut recevoir de la télé par satellite, pas vraiment du satellite tout de suite, oui, si on a la parabole, mais normalement c'est renvoyé dans nos maisons par l'Internet, par des câbles, mais on n'a pas des smartphones capables d'arriver aux satellites. Ça n'existe pas, absolument pas. Les smartphones n'arrivent pas aux satellites. Et là, tout le monde dit, oui, mais les GPS n'envoient rien du tout. Les GPS reçoivent juste...
C'est-à-dire, le smartphone reçoit un signal GPS, voilà, dont il déduit la position où il se trouve.
Deux chiffres, longitude, latitude. Autre chose d'envoyer un message WhatsApp vocal, c'est complètement différent. Pour des raisons, basiquement des raisons d'émission, c'est impossible pour les smartphones qu'on a aujourd'hui d'arriver jusqu'au satellite et de faire marcher l'Internet social par les satellites. Or, la question, c'est que si on ne connaît pas, on est étranger, aliéné des systèmes techniques, on ne peut pas prétendre à faire de l'autogestion sur ces systèmes. Donc, pour pouvoir développer un système qui soit juste, correct, pas de l'exploitation structurelle, etc., il faut nécessairement prendre en compte, prendre en charge les systèmes actuels, partir de ce qu'il y a, c'est ça, les câbles sous-marins, qui sont des propriétés des États et des grandes entreprises. Google est en train de déposer des câbles dans le Pacifique et s'est connecté à la Chine directement.
Avec l'histoire de l'agression de l'Ukraine par M. Poutine, qu'en ce moment, c'est un peu la panique dans tout un tas d'États, parce qu'on se dit que si Poutine décide d'être désagréable, il pourrait tenter et probablement réussir à saboter un grand nombre de câbles sous-marins, et à ce moment-là, l'Internet mondial serait très très embêté. On avait parlé de où se trouve TikTok. Alors, les serveurs de TikTok, ils sont où ?
À Singapour.
Notre fillette de 12 ans, dont on parlait il y a quelques temps, quand elle se connecte à TikTok, elle se connecte donc à des serveurs qui sont à Singapour. Et bien entendu, pour qu'un smartphone à Venise puisse envoyer un signal qui va arriver à Singapour, il faut bien que ça passe par des câbles sous-marins. Carlo Milani, c'était donc l'auteur de Technologie et Conviviali.
Ça va être complètement en ligne, en HTML, sur le site de Leuter et aussi sur le site de Circe, circex.org. On est pour la connaissance libre. Ça va être complètement en ligne, gratuitement.
La traduction française va probablement arriver relativement vite, également en anglais. Après, il faut juste qu'elle soit un peu lissée, un peu nettoyée. Carlo, je te remercie donc. Nous étions bien sur le Proton sur le Pif dans Radio Libertaire 84.
Les infos du Proton.
Une oie d'honneur du canard enchaîné, accrochée au revers de la main d'Adrien Catanès, 5 jours avant son éventuelle et très controversée réintégration au groupe LFI, le toujours insoumis constatant sur Twitter. L'intersyndicale claque la porte de Matignon face à un gouvernement inflexible et coupé de la volonté de populaire. Il n'a pas osé ajouter que cette porte claquée était une gifle pour Elisabeth Borne. Une autre noix du canard enchaîné attribuée à l'ex-président François Hollande pour cette déclaration sur LCI. Il m'est arrivé d'utiliser le 49-3, mais j'avais laissé une large place au débat. Là, il y a eu un double passage en force, tandis que Hollande se contentait d'un passage en force normale. Un mur du son du canard enchaîné franchi cette semaine avec beaucoup d'allant par Éric Zemmour qui revient sur sa campagne présidentielle ratée dans un livre publié le 16 mars. « Je n'ai pas dit mon dernier mot. La cause principale de son échec ? Les médias ont été mes plus farouches adversaires. Ce sont eux qui m'ont combattu bien davantage que mes concurrents. » C'est vrai que le malheureux Zemmour, injustement agressé de toutes parts par ses confrères jaloux, a été particulièrement maltraité par CNews, Le Point, Le Figaro Magazine, Paris Match et Valeurs Actuelles. Bientôt du lait artificiel dans les biberons des bébés, d'après Le Figaro du 4 avril, rapporte que le groupe Danone a investi 2 millions de dollars dans une start-up israélienne Wilk, qui a mis au point une technologie pour reproduire dans des bioréacteurs des cellules humaines et animales productrices de lait. Après les emplois menacés par l'intelligence artificielle, ce sont maintenant les vaches qui ne rient plus. Les moines orthodoxes de la lore des grottes de Kiev sont menacés d'expulsion par les autorités ukrainiennes, d'après Le Monde du 31 mars. Dès novembre 22, les agents du service de sécurité ukrainien, SBU, ont mené des perquisitions dans des centaines de lieux de culte de l'EOUPM, Église orthodoxe ukrainienne affiliée au patriarcat de Moscou, et ont publié des photos de ce qu'ils considèrent être des preuves de collaboration. Liasses de roubles, passeports russes, ainsi que des tracts faisant l'apologie du monde russe. À défaut de marcher dessus ces moines, ils nagent en roubles. On savait déjà que la pieuvre disposait de 9 cerveaux indépendants. On sait désormais, comme le relate Slet FR du 9 avril, que ces cerveaux émettent des ondes très similaires à certaines observées dans certains cerveaux humains, détectées par des électrodes directement dans le cerveau. Un procédé rendu nécessaire par l'intelligence de l'animal qui lui permet de se débarrasser de l'équipement d'enregistrement et même de jouer avec. À quand un concours entre ChatGPT et une pieuvre ? Le trafic d'espèces sauvages transite en grande partie par l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, alerte Le Monde. Des douaniers décrivent leur saisie, un gros sac noir, grouille de ver et de poissons avariés. Igname, tubercules, viande de singe emballée dans un carton gros, vert blanc, séché. On trouve aussi de la chair de pangolin, de chauve-souris ou encore de serpents qui sont menacés. Il ne manque plus qu'un petite grève des éboueurs pour que Roissy devienne l'épicentre d'une nouvelle pandémie. Bruno Valentin, futur évêque de Carcassonne dans l'Aude, a surpris son monde en bénissant un supermarché Leclerc à la demande de son patron. Ce soir-là, alors que le rideau est baissé, Monseigneur Valentin, assisté d'un diacre, récite une prière entre viennoiserie et poissonnerie. Face aux critiques, l'intéressé ne s'est pas démonté. Nous n'avons prié ni pour les marges commerciales, ni contre l'inflation. Et pour conclure cette honorable prière, même pas un petit Amen, la caisse. Nasser Kanani, le porte-parole du ministre iranien des Affaires étrangères, condamne la répression des manifestations pacifiques du peuple français dans le point du 24 mars. Il appelle également le gouvernement français à parler à son peuple, écouter sa voix, éviter de faire usage de la violence à son égard. Il faut reconnaître que les mollahs sont très bien placés pour donner des leçons de démocratie. Mario, le personnage fétiche de Nintendo, créé en 1981, apparaîtra bientôt au cinéma. L'occasion pour le Parisien Weekend de rappeler l'échec retentissant d'un essai du même genre tenté en 1993. À l'époque, ce navet avait inspiré deux parodies classées X, Super Mario Bros. 1 et 2, mettant en scène un plombier moustachu libidineux pour empêcher leur diffusion et préserver la mascotte familiale du scandale. Nintendo avait dû racheter les droits exclusifs. Attention ! En cas de nouveau ratage, à ne pas se retrouver avec une parie de M6, Mario au premier regard.
Mais Mario, c'est sorti depuis 15 jours. Ah. Super Mario, et ça fait le plus d'entrées. Eh oui, c'est comme ça.
Eh ouais, c'est comme ça. Mieux que Races 2, dont la progéniture est animée à 110 enfants, Libération du 29 mars rapporte qu'aux Pays-Bas, un donneur de sperme est soupçonné d'être à l'origine d'environ 550 naissances. Une fertilité hors la loi, car chaque donneur ne peut procréer légalement que 25 fois aux Pays-Bas, pour des raisons de risque de consanguinité et de quête des origines. Il y en a qui se permettent vraiment n'importe quoi. Les boissons servies dans les canettes métalliques y prennent-elles un goût spécial ? A posé la question au boss du groupement d'intérêt économique la boîte boisson, qui explique « Ce n'est pas le métal qui a un goût, mais une réaction chimique avec la graisse de la peau, qui contient sueur et impureté. Quand on pose, s'élève sur le goulot. Où va-t-on s'il faut se laver les dents chaque fois qu'on ouvre une canette de bière ?» Twitter, un réseau social détenu par le milliardaire américain Elon Musk, redouble d'élégance vis-à-vis des médias traditionnels. Contacté par le journal Les Échos, sujet d'une nouvelle certification payante qui pourrait contribuer à favoriser des comptes de désinformation. Twitter a répondu avec un email en forme de crotte. Nouvelle réponse automatique du groupe américain aux demandes de presse. Classe!
Eh bien, puisque mon camarade a terminé, Lulu, je vais vous parler, moi, d'un petit livre qui vaut la peine et qui va très, très bien aussi dans la même ambiance que les news du Proton. C'est le livre de David Snug, La lutte pas très classe. Et La lutte pas très classe, eh bien, il y a tous les poncifs, tous les trucs qu'on peut dire comme ça tous les jours. Et puis, par exemple, je vais vous citer un exemple. Le premier dessin, c'est de la bande dessinée, c'est très très chouette. C'est le rapport du GIEC sans la lutte des classes, c'est du greenwashing. Et puis, il y a un petit avion qui vole, et puis il y a quelqu'un qui dit à l'intérieur, il nous reste 3 ans pour faire pipi sous la douche. Voilà, donc je vous en donne un autre aussi. La gauche sans lutte des classes, c'est Mélenchon, chez Hanouna. Et donc, évidemment, il y a le fameux truc de Hanouna qui disait « Je peux mettre des nouilles dans ton slip » ou je sais pas quoi. Enfin bon, bah, et donc, il y a donc Mélenchon qui dit « Moi aussi, je pourrais avoir des nouilles dans mon slip ». Et puis, il y a autre chose également, je vous dis comme ça un petit peu à la volée, hein, c'est Monique et Michel Pinson-Charlot. Sans lutte de classe, sans lutte des classes, ça donne quoi ? Ben, ça donne Isabelle et Patrick Balgany qui disent ben, « Nous aussi, on pourra en écrire des livres sur les riches. Hein. » Tu vois, c'est, ça complète tout ce que tu as dit, Lulu. Et puis aussi, une chose, c'est... Ah oui, celui-là, j'aime bien. C'est le dessin, c'est donc Michel Houellebecq. Et Michel Houellebecq, il est avec sa clope, bien sûr. Et puis au-dessus, donc, il y a le slogan, c'est « L'ascendant sans lutte des classes, c'est Michel Houellebecq ». Et lui, Michel Houellebecq, il dit « Mes valeurs actuelles, c'est l'extension du domaine de la lutte des classes ». Et puis le socialisme sans lutte des classes, eh ben c'est le Parti Socialiste. Et puis là, on voit évidemment Hollande qui dit « Mon ennemi, c'est la finance ben, ». Ça lui coûte pas cher, hein, c'est sûr. Et puis celle que j'aime bien aussi, c'est Alexandre Marius Jacob. « Sans lutte des classes, c'est Arsène Lupin ». Et Arsène Lupin, très dandy, dit « Vous avez franchement cru que j'allais reverser mon butin à un vulgaire journal anarchiste ?» Ah ben non, hein, faut pas croire. Hein. Et puis ça, c'est pas mal aussi, c'est la décolonisation sans lutte des classes. C'est le néocolonialisme. Et là, on voit Mitterrand qui dit « Chez Dassault, il y a tout ce qu'il faut ». Voilà, alors donc cet extrait, tout ça, ce que je viens de vous lire, du livre de David Snuck, que nous recevrons bien sûr à Radio Libertaire et dans plusieurs émissions, je l'espère. Attends. On t'entend pas, j'avais coupé le micro.
Ah, faudra peut-être donner le nom de l'éditeur.
Alors, justement, très bien, très bonne remarque. Donc, c'est David Snug, La lutte pas très classe, et c'est chez les éditions Nada. Voilà, bien connu pour ce genre de choses. Ben maintenant, on va vous passer une musique coup de cœur, si vous êtes d'accord.
Sous
Alors ça, c'était le nouveau CD, le nouvel album des Femmes Hosties, dont on vous a déjà parlé dans d'autres émissions. Ça, ce titre-là s'appelait Les Résistantes. Je vais vous en passer un autre, mais avant, j'aimerais donc ça, l'autre que je voulais vous passer. Ça, c'est, je sais pas, j'hésite entre le Drapeau Rouge et Trop d'Égo. Allez, Trop d'Égo, parce qu'il est vraiment sympa. Alors, ce que je voulais vous dire, bah, c'était les musiques qu'on avait passées à l'intérieur du... Ah, mais ça y est, il est revenu. Donc, c'est parfait. Il va me faire le générique. Allez, au travail, Jean-Manuel. Jean-Manuel va faire le travail et il va me dire ça. Et tu vas au micro jaune, s'il te plaît, Jean-Manuel. Ça, c'était donc la programmation musicale qui était dans... l'histoire de Mélanie. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait comme bruit. Non, on est en direct, hein, vous avez pu voir. Hein.
Bonsoir tout le monde. Nous étions donc non seulement sur Radio Libertaire, mais dans le Proton se rebiffe, et nous avons parlé des textes de Carlo Milani, qui est donc un hacker et qui nous enseigne l'autodéfense digitale. Il y avait Christiane à la technique, Lulu dans le génie protecteur du foyer, et il y a Christiane qui est surprise, mais si, Lulu, c'est le génie protecteur du foyer. Et moi-même, Nestor Potkin, ravi de ne pas m'être fait...
Il a changé en plus de ça de...
Oui, exactement.
Ça, c'est pour faire du genre, c'est pour faire l'intéressant, parce que maintenant qu'il a bouffé, il va pouvoir bien
déconner. Oui, alors je recommande tout à fait le couscous et le tiramisu de rue de la Roquette, arrêtez. Et comme je l'avais dit juste avant, pendant l'émission... comment il s'appelle déjà, l'émission précédente, pouf, Le Monde Merveilleux du Travail, eh bien, je suis passé à l'Hôtel de Ville, au concert de casserole, devant l'Hôtel de Ville, où nos charmantes...
T'aurais dû prendre ton enregistreur.
Ah, voilà. Ouais. Et où nos charmantes forces de l'ordre se sont empressées de nasser, mais elles ont été nassées elles-mêmes à leur tour, par les manifestants. C'était bon enfant, enfin en tout cas jusqu'à ce que j'en parte à 9h moins le quart. Voilà, eh bien nous nous retrouverons dans...
Non, je voudrais d'abord la programmation.
La programmation musicale. Alors, c'est par ordre chronologique ?
Oui.
Alors, par ordre chronologique, nous avons eu Rivoluzione, je pense que tout le monde a compris, Rivoluzione, et c'était de Arcanio Celentini. Si je ne m'abuse.
Ascanio.
Et ensuite, nous avons eu Niente di Speciale, sans qu'on sache de qui c'était, et Cuore Nero de Franco Riccardi. Et voilà. J'espère que vous avez entendu les deux C, parce qu'en italien, quand on fait Riccardi, ça veut dire qu'il y a deux C. Oh. Due C.
Trop d'égo, il ne voit pas, il ne sait pas, il n'entend pas, il comprend pas, il ne voit pas, il ne sait pas, il n'entend pas, il comprend pas. Accumulation de biens, de gens, de sous, de sens, de foi, de loi. Accumulation de mots, de toi, de moi, de vous, de nous, de rois. Trop d'égo, les gars, trop d'égo. Trop d'égo, les gars, trop d'égo. Trop d'égo, les gars, trop d'égo. Que de dégâts tu as l'égo. Trop d'égo, les gars, trop d'égo. Trop d'égo, les gars, trop d'égo. Trop d'égo, les gars, trop d'égo. Que de dégâts tu as l'égo. Division, partition, fragmentation. Division, partition, fragmentation. Trop d'identité, d'altérité, découpé à volonté. Trop d'identité, d'altérité, découpé à volonté. D'autres que soi, d'autres que moi, d'autres que toi.
Bonsoir madame, on s'en va, on s'en va, on rentre dans notre maison. Au revoir.
D'autres pourquoi.
Non, mais ça y est, je lui parle.
Trop d'égo, les gars, trop d'égo. Trop d'égo, les gars, trop d'égo.
trop d'égo les gars, trop d'égo. Que de dégâts dû à l'égo. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Oh oh oh, trop d'égo les gars, trop d'égo. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Que de dégâts dû à l'égo. Est-il inutile de l'inégal? Est-il inutile de l'inégal? Est-il inutile de l'inégal? Est-il inutile de l'inégal? Comme le Lego, il mène, il ramène, ramène à lui-même. Comme le Lego, il mène, il ramène, il ramène à lui-même. Comme le Lego, il mène, il ramène, il ramène à lui-même. Comme le Lego, il mène, il ramène, il ramène à lui-même. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Que des dégâts du allégo, que des dégâts du allégo. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Que des dégâts du allégo.